Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire alternative, qu'elle soit conjecturale, contrefactuelle, histoire des possibles ou encore histoire uchronique. Nous nous demandons, si Waterloo n'avait pas été la défaite de Napoléon, que se serait-il passé? Ou encore, et si le mur de Berlin n'était pas tombé, que se serait-il passé? C'est d'ailleurs le thème du documentaire du jour, réalisé par Anne Fleury et conçu par Anaïs Quien. Aujourd'hui, le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé et tous ceux qui suivirent. Il s'agit d'un groupe d'apprentis éditeurs qui a lancé un appel à texte sur ce thème justement et qui, une fois reçu l'ensemble de ces textes, l'a publié. Et c'est une sorte de rêverie fantasque et assez original que nous allons vous proposer aujourd'hui dans le documentaire de ce matin avec 6 des participants à cette entreprise, des lectures qui sont lues par Mélodie Auru et Igor Menjinski, mais également les témoignages et les analyses de Guillaume Muller-Labbé, de Diane Ranville, de Gilles Luneau, d'Elio Posso, de Morgane Charvet et de Gabriel Ferraud dans ce documentaire jusqu'à 10h, un documentaire d'Anaïs Quien et d'Anne Fleury.
Bonjour. L'actualité aujourd'hui se résume en un seul titre. Le mur de Berlin, le mur de la honte, est tombé.
Le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé. Et tous ceux qui suivirent. Anaïs Quien, Anne Fleury.
Nous venons de vivre un moment qui a failli être historique. La foule des Berlinois, déterminée à passer à l'ouest, a voulu faire tomber le mur qui scinde la ville en deux. Mais il semblerait que la hiérarchie moscovite ait connu un sursaut d'orgueil. Les soldats russes présents sur place ont reçu l'ordre d'intervenir, et ils ont tiré. On dénombre déjà 54 morts et des centaines de blessés. En ce 9 novembre 1989, le mur est toujours debout.
Page 7. 16h14, Berlin-Est. Une série de photos suit la préparation du thé. L'eau qui bout dans sa casserole, les tasses, le sucrier et les biscuits disposés sur une petite assiette. Nous sommes le 9 novembre 1989 et il ne se passe rien d'inhabituel. Le mur de Berlin n'est pas tombé. Le livre, Le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé et tous ceux qui suivirent, commence comme ça. Au départ, l'élaboration de l'ouvrage est un exercice universitaire proposé en 2013 aux étudiants du master d'édition de la Sorbonne. Pour s'emparer du thème de l'Uchronie qui leur est proposé, ils s'accordent sur ce seuil historique du mur de Berlin détruit en 1989. Ces jeunes gens, tous nés juste avant ce grand événement, n'ont donc pas connu la guerre froide, si ce n'est dans les livres d'histoire ou à travers les souvenirs de leurs aînés. Un appel à texte est lancé qui invite les auteurs à imaginer un monde encore bipolaire, divisé entre communisme et capitalisme. Cet ouvrage collectif explore à travers textes de fiction, une de presse détournée, inventions graphiques, faux tracts et nouvelles littéraires, ce qu'aurait été le monde et nos vies aujourd'hui si le mur n'était pas tombé. On y voit réapparaître un panthéon politique aujourd'hui disparu, les idoles pop mitées des années 80, avec leur cortège de voitures de sport sur fond de plage de Floride. On y rencontre aussi des réfugiés, quoi qu'il arrive. Les grands procès politiques et l'ombre militaire et ordonnée de la dictature.
Son cœur battait plus fort. Quoi qu'il y ait eu ce matin dans sa gamelle de fer, cela faisait effet au bon moment. Ils avaient bien dosé.
Pourquoi je suis là ?
L'homme leva le doigt devant ses lèvres.
Écoutez, ça va vous plaire.
Il appuya sur l'autre lecteur. Julien n'avait jamais eu accès à une telle technologie de pointe. La seconde cassette se déroula à son tour, le son grésilla un peu. La chanson résonna, au gré de la bande magnétique. André écoutait, le visage sévère. Julien sentait la voix du chanteur vibrer en lui. Il se sentait en résonance avec cet homme. On est devenus des copains. À l'amicale du
fusillés. On dit qu'ils sont tombés pour rien.
André coupa net.
Non, putain, c'est le meilleur passage.
Julien perdait son contrôle. Il sentit monter les larmes. Des larmes de rage.
On ne dirait pas que cette chanson vous apaise. Pourtant, la musique doit adoucir les mœurs, non?
C'est pas vrai, c'est une chanson sur la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Me dites pas que je suis ici parce que j'écoute du Michel Sardou, bordel!
Julien, tenez-vous! Apparemment, ce chanteur n'est pas sans vous mettre en transe. Dois-je vous rappeler qui a gagné cette guerre?
Le jeune homme tressaillit. On lui avait tellement farci la tête avec.
La guerre patriotique a été remportée par les forces de l'Union soviétique face aux armées fascistes. Je sais, mais y a quand même eu le débarquement, merde!
André hocha la tête.
Tout à fait d'accord. Les prolétaires américains ont été sacrifiés sur les plages de Normandie, comme vous le savez, ainsi que tous ceux ayant eu des activités communistes. N'est-ce pas, Julien, que vous le savez?
Page 9. Gabriel Ferraud. 13 ans, le 9 novembre 1989.
La musique était venue assez rapidement. Des images aussi anecdotiques que fortes, mais qui devaient circuler, par exemple, et c'est repris dans l'ouvrage de David Hasselhoff, qui chantait sa chanson parce qu'il était présent là, à ce moment-là, lors de la chute du mur de Berlin. Il y avait aussi des reportages, des documentaires qui avaient été faits, notamment sur toutes ces stars américaines ou autres de l'Ouest qui allaient jouer en RDA. Il y avait Bruce Springsteen, si je me rappelle bien, etc. Il y avait effectivement, il y avait un combat d'idées à ce niveau-là. Parce que aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on vous donne ce titre le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé et tous ceux qui suivirent, c'est que nous aussi, on a une expérience, on va dire, de V6, comme diraient les Allemands, des gens de l'Ouest. On a une vision du mur par rapport à notre vision de l'Ouest, et en l'occurrence de Français. Donc, les éléments qu'on a, bon, peuvent être assez limités. Et pour le coup, l'aspect musical, moi, me paraissait assez intéressant. Mais je me suis dit, ah, si j'ai pensé à David Hasselhoff, il faut pas. Et il faut aussi proposer un sujet original. C'est pour ça que j'ai préféré travailler sur un autre auteur.
Et donc, vous avez choisi Michel Sardou.
J'ai repensé à cette chanson, effectivement, les Ricains. Si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Birmanie, à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Donc, effectivement, Michel Sardou, quelque part, là, lance un tout petit peu de l'Uchronie. Il fait un what if, il change tout d'un coup l'histoire, il dit attention, voilà ce qui se serait passé si. Alors, si on va un petit peu plus loin que le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé, et tous ceux qui suivirent, si on pense que la France a basculé à ce niveau-là, et elle aussi soviétisée. Donc à partir de là, Michel Sardou devient un opposant, donc il y a forcément potentiellement une grande chance que les chansons de Michel Sardou puissent être considérées comme dissidentes, donc interdites. Donc voilà pourquoi Michel Sardou. Mettre en avant effectivement un chanteur du cru, puisque de surcroît, là pour le coup, les dissidents de cette France imaginaire ne connaissent pas l'anglais, ils connaissent le français. Donc les textes de Michel Sardou leur portent.
Et ces éléments qui nous amènent dans votre texte progressivement à comprendre que l'on est dans une histoire alternative, quels sont-ils?
Ce qui m'avait amusé aussi, parce que je me suis pensé, voilà, enfant, 89, qu'est-ce que je pouvais me retenir? Et j'ai repensé à Georges Marchais. Marchais, donc, qui s'est occupé du Parti communiste français pendant très longtemps, qui était une figure populaire que, en l'époque du texte 2013-2014, plus grand monde se rappelle qui était Georges Marchais, etc. Or, dans un autre monde, 25 ans plus tôt, si le mur n'est pas tombé, Georges Marchais comptait quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller un peu plus loin que de maintenir le mur, je vais le faire avancer, grosso modo, jusqu'à l'Atlantique.
Et donc Georges Marchais aurait gagné?
Complètement. Complètement. Alors après, il y a aussi un truc qui peut être intéressant, c'est que les variations historiques que je peux mettre, le lecteur ne les voit peut-être pas. Voilà, ils sont pas qui est Helmut Kohl. Voilà, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu être assassiné par les services secrets français, par exemple? Il y a beaucoup d'éléments, je parle de Georges Marchais, mais je parle même de Charles Hernu. Qui se rappelle de Charles Hernu?
Alors c'était qui Charles Hernu?
Ah bah il était du PCF. Bah il a été ministre, et puis c'était pas rien, il s'est quand même occupé des armées. Donc voilà, ce serait une tourbe de rêve. Quelqu'un qui est ministre dans un gouvernement, et qui en plus, après, peut donner toutes les informations des codes nucléaires, ou je ne sais quoi. Puis après, avec la fin concernant un lieu bien précis comme Guantanamo, il y a une inversion complète, on va dire, à ce niveau-là. Donc, aussi, là, oui, là, à la fin du texte, là, c'est sûr, il sait qu'il a lu autre chose que quelque chose de contemporain, qu'il est passé ailleurs.
C'est le bloc soviétique qui envoie ces éléments subversifs à Guantanamo dans la prison.
Voilà. Les éditeurs qui ont travaillé sur ce projet sont de la génération du 11 septembre. Bah oui, une des choses, qu'est-ce qui a pu marquer en septembre, c'est la fameuse prison de Guantanamo, qui en plus, alors après peut-être que je me trompe, mais si je me rappelle bien, c'est grosso modo une location des États-Unis par rapport au territoire cubain. Donc ça a été intéressant de voir que, normalement, deux ennemis politiquement complètement opposés, tout d'un coup, tiens, on a besoin d'une prison en dictature, c'est pratique pour jouer avec les droits de l'homme. Si effectivement le bloc soviétique avait continué à prospérer, on peut très bien imaginer que là, il n'y a pas de souci, Fidel Castro sera ravi de prêter sa prison pour s'occuper des dissidents. Je ne veux pas dire que c'est son fonds de commerce, mais il y a quand même aussi, on parlait de littérature, d'interrogatoire ou autre, il y a des habitudes là-bas. Et puis après, bah, si on veut se débarrasser des dissidents, il n'y a qu'à les envoyer en face.
Page 177. Guillaume Muller Labbé, 12 ans, le 9 novembre 1989.
On avait dans l'idée, pas de faire un travail scientifique, mais de proposer une sorte d'archéologie d'un monde qui aurait pu exister. Ce qu'on avait dans l'idée, c'est une série de livres de Frédéric Woerth, intitulé « Roman ». Et en fait, il crée une sorte de peuple imaginaire qui s'appelle les Wards. Et en fait, il le fait pas sur un récit romanesque, mais il propose des articles universitaires, des exégèses de textes religieux, etc., totalement inventés, une langue inventée, un lexique, etc., qui, au final, crée une histoire. Et en fait, c'était ce qu'on avait dans l'idée, faire une sorte d'anthologie, en fait. Il y a 75 contributions, je pense, tout confondu, entre les facsimilés, on a des listes de courses chiffonnées, on a des photos, des peintures, des partitions. Donc on a énormément de choses diverses. Et nous, en fait, on avait une vision globale et on a essayé, à la fois dans l'agencement, dans la mise en page et dans le rapport entre les textes, on a essayé de donner une cohérence en rajoutant en fait des petites contributions qui créent une sorte de lien et une cohérence, en fait.
Empire du Japon. Passeport numéro TZ-066-2976, nom Ikeda, prénom Yukiko, nationalité Japon, né le 12 avril 1970, domicilié à Kyoto, affiliation politique Torii.
Et donc là, j'avais l'idée d'une résistante, d'un mouvement que j'ai appelé les Tories, qui d'abord pacifiquement se rebellent contre une dictature de l'Empire japonais, qui se font arrêter, qui se font, voilà, une sorte de révolution pacifique qui se fait saper, en fait. On a plusieurs dates qui permettent de donner une sorte de véracité, de donner une sorte d'illusion. D'illusion de réel, voilà. Et du coup, montrer qu'on vit dans un monde de restrictions de liberté, d'oppression.
Lettre retrouvée le 6 novembre 2006 dans les décombres de la centrale de détention officielle de Kyoto et probablement rédigée en avril-mai 1995 par Yukiko Ikeda, dissidente Torii.
Mon Jiro, enfin je t'écris. Ils sont débarqués à la planque, tôt, très tôt dans le matin. Le mardi de cette semaine ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Ça a hurlé. Ils nous ont roués de coups et plusieurs d'entre nous ne se sont pas relevés. Megumi, John. Après nous avoir mis en rang, ils nous ont pris nos téléphones et nos passeports. Puis on s'est retrouvés à poil. 50 culottes blanches flottant dans la nuit glacée. C'était comme dans un rêve. Une nuit nauséeuse qui n'en finissait plus. Sur nos corps, entre les bleus, ils ont vérifié nos tatouages et y ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Megumi et Jun, on ne les a pas revus. Ils n'étaient pas avec nous dans les bus dans lesquels ils nous ont embarqués. Cela fait des jours qu'ils nous ont balancés dans ces box. Des jours qu'on se décharne au GTE et je n'ai toujours pas aperçu Megumi. J'ai peur, mon Jiro. Je prie pour qu'elle soit en sécurité à tes côtés.
Je me suis inspiré, ou enfin inconsciemment, c'était voilà, le mouvement hippie contre la guerre au Vietnam. Et je me suis dit, il y aurait pu avoir un mouvement pacifique contre en fait, le durcissement des gouvernements de par le monde. Le Tory, ça vient tout simplement de ces grandes portes rouges, en fait, qui sont un passage vers un autre monde et vers la méditation, en fait. Donc moi, je voyais ça comme un aspect pacifique, et du coup, c'est comme ça que j'ai... Enfin, comme ça que j'ai eu l'idée de ce mouvement dissident. Voilà.
Soldats, les yeux à gauche. Camarades, premier secrétaire Walter Ulbricht, l'armée populaire qui défend la patrie socialiste est prête pour la parade.
Page 97. Gilles Luneau, 39 ans, le 9 novembre 1989.
Moi, j'ai commencé le métier, l'Union soviétique, elle existait, donc elle partageait le monde. Hein, j'ai grandi dans les rapports Est-Ouest, dans la guerre froide. je fais partie des gens qui ont largement, on va dire, contesté et le modèle de l'Ouest et le modèle de l'Est. Donc, j'ai immédiatement été attiré par cette idée, quoi. Je veux dire, le mur n'est pas tombé, ça veut dire, surtout l'Union soviétique, le mythe de l'homme nouveau existe encore. Et donc ça m'attirait quand même de voir ça. C'est un cauchemar pour moi.
L'homme nouveau ?
Oui, complètement, bien sûr.
Et alors quand on vous propose un projet comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement ?
Là, c'est relativement facile parce que j'ai un peu de bouteille dans le métier de journaliste. Donc on prolonge un peu le pinceau du temps assez facilement. On se dit, bon, voilà, qu'est-ce qui va se passer si le mur n'est pas tombé l'Union soviétique va pas vraiment changer a priori, donc on tire la ficelle des réactions dictatoriales, hein, voilà. Et puis on avait à l'époque l'agitation en Ukraine, enfin qui continue, la contestation. Donc je me suis dit, si le mur était pas tombé, qu'est-ce qui se passerait en Ukraine ?
Zaporijja, décembre 2013. Catherine II revient. Intervention militaire en Ukraine. Parachutés la nuit dernière, des commandos de l'armée rouge ont dynamité une île du Dniepr pendant que l'infanterie et les chars prenaient le contrôle de la ville voisine, Zaporijja. Récit exclusif de notre correspondant clandestin en Union soviétique. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne peux témoigner que de l'intervention militaire que j'ai pu voir. Les Zaporogs se sont réveillés en état de guerre. L'armée rouge quadrille la ville. Barrage aux principaux carrefours, au pont, aux gares routières et ferrées, sur la route de l'aéroport. Patrouille en centre-ville et sur les rives du fleuve. Arrestation à la cité universitaire et dans la banlieue sud où s'entassent les travailleurs les plus pauvres, notamment des populations musulmanes venues des républiques d'Asie centrale. La radio a annoncé la fermeture sine die de l'université et de l'aéroport. De mon refuge, j'ai pu entendre des rafales d'armes automatiques provenant du bois qui occupe le centre de l'île. Selon une information non vérifiée, ces tirs seraient ceux d'exécutions sommaires de personnes arrêtées en possession de tracts, appelant à la résistance non violente contre le régime.
Je me suis dit, bon, il y a eu des révoltes cosaques dans le temps, il y a eu une vraie... un vrai état cosaque éphémère, noyé dans le sang par Catherine II, et voilà, je suis reparti de là, tout simplement. Mais si tant est que le petit récit a de la force, c'est parce que justement, il est dans un décor historique qui est absolument vrai. L'île existe, hein, la ville existe, c'est-à-dire tout est vrai et tout est faux en même temps, quoi. Ça, j'aimais bien ce mélange-là. Et puis après ça, on va dire que j'ai eu une remontée poétique avec la lettre des Cosaques Zaporogues au sultan d'Apollinaire. Et je me suis dit, voilà. Et puis en plus, Apollinaire, il était né russe. Donc je trouvais qu'il y avait comme ça une conjonction de facteurs tant différents, mais qui pouvaient construire une histoire, une petite fiction.
Pourquoi vous avez pensé à ce poème que vous connaissiez avant ?
Ouais, ça me fait sourire parce que c'est un poème abominable. C'est un poème de haine. C'est l'expression, bon, on est sous l'Empire ottoman, hein, les troupes du sultan s'affrontent avec celles des Cosaques, et la réaction, on pourrait dire, nationaliste, hein, des Cosaques, est d'envoyer une missive à Constantinople avec des mots extrêmement durs et vulgaires, grossiers et tout, où ils insultent de manière abominable les Turcs. C'est l'expression haineuse du nationalisme, quoi. Et j'avais été très, très surpris de lire ça sous la plume d'Apollinaire, quoi, voilà. J'ai retenu ça parce que ça me choquait, hein. C'est pas du tout que j'acquiesce à la haine.
Et lorsqu'on est journaliste, c'est votre profession, Gilles Luneau, se prêter à cet exercice du contrefactuel, imaginer ce qui pourrait être à partir d'une analyse des faits, c'est quelque chose qui est permis ou c'est quelque chose de l'ordre de la transgression quand même dans ce métier-là?
C'est une transgression totale. C'est ça qui était jouissif. Bon, d'habitude, on est toujours quand même, on est, et heureusement, hein, je veux dire, on est enchaîné aux sources, à ce qu'on peut affirmer, soupçonner. Enfin voilà, on est avec plein de précautions. Enfin, c'est quand même le respect des gens qui nous lisent ou qui nous écoutent. Donc c'est ça qui était vraiment vraiment super. On se lâche. Ça, c'est vrai qu'avec avec un peu de métier, avec le recul, des fois, on se dit « Oh là là, c'est foutu, ça va encore. » On sait comment ça va se terminer. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Enfin, je veux dire, on peut pas priver les gens d'écrire leur histoire. Hein. Et quelquefois, on est quand même agréablement surpris. Mais oui, c'est un interdit total.
Unser schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Krieg am Rhein. Ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt.
Notre beau Berlin sera enfin propre. Nous avons bouclé la souricière. Oui, oui, le Berlinois dit, le mur, ça purifie l'air.
So dufte das Klima, es ziehen jetzt Ruhe und Frieden ein. Und sauber, ja sauber, wird unsere Hauptstadt sein.
À la lecture de cet ouvrage, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez vu de la représentation de ce monde de guerre froide par les gens de cette génération-là?
J'ai l'impression de projections beaucoup moins dramatiques que la mienne, en fait, voilà, essentiellement. La question de la dictature, hein, je veux dire, et les questions idéologiques, c'est pas, ça les effleure pas, en fait. Ils ne sont pas habités comme nous, on peut l'être, ceux de ma génération.
Ce qui est frappant, c'est l'évaluation définitivement négative d'un projet communiste.
Oui, mais parce que ça, enfin, je veux dire, l'histoire ne le dément pas. Hein. Je crois que c'est... Derrière le projet communiste, il y a plein de choses. Il y a certes, au départ... le rêve d'un avenir meilleur, hein, je veux dire, ça part de bons sentiments.
Ça peut faire rêver, ça.
Ça peut faire rêver, hein, c'est le contraire de, on va dire, des dictatures d'extrême droite. Mais très vite, la question d'imposer le bonheur, la question de l'homme nouveau, la question finalement de s'affranchir de toutes les contradictions qui font le genre humain, voilà, très, il n'y a plus d'illusions là-dessus. Enfin, je reviens à la Boétie, je veux dire, voilà. Les tyrans ne sont là que parce que nous sommes à genoux, hein, en substance.
Le communisme, pour vous, c'est quelque chose de totalement disqualifié par son histoire soviétique?
Eh bien non, pas du tout. Mais le communisme soviétique, hélas oui.
Page 109. Elio Posso, 2 ans, le 9 novembre 1989.
Alors, je me détache quand même d'un discours ambiant, je pense, qui est très, très pernicieux, d'assimiler le communisme, enfin donc le mot communisme, au grand mot du XXe siècle. Et donc notamment le nazisme, en général, on associe communisme et nazisme, et ça me paraît aberrant, comme c'est parfaitement aberrant pour moi de dire extrême gauche ou extrême droite, c'est pareil. Enfin, ce n'est pas pareil, et c'est très important que ça ne soit pas pareil. Mais hélas, je pense qu'il faut quand même admettre aujourd'hui que tout le vocabulaire du communisme à l'ancienne qu'a connu le XXe siècle, enfin le grand soir, la lutte du prolétariat contre le patron, malheureusement le vocabulaire du communisme, malgré la générosité qui la sous-tend, se sont périmés. Et donc bah, c'est à nous de trouver de nouveaux mots pour dire des réalités qui, elles, sont toujours valables, toujours d'actualité, parce que enfin, je pense que la lutte des classes, concrètement, c'est toujours d'actualité, mais bon, simplement, il faut trouver d'autres mots pour la dire. Et c'est un des grands combats de l'histoire d'ailleurs. Et enfin, je suis frappé en discutant avec des amis, enfin, donc des gens de ma génération, d'à quel point le fatalisme a conquis les esprits. Bah, des gens qui me disent non, mais la Révolution française finalement, enfin, ça n'a rien changé. Enfin, un peu le discours de il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours pareil, ça me révolte en permanence. C'est important quand même de se rendre compte qu'il y a des avancées qui ont été faites, qu'au 19e siècle, il y a des ouvrières du textile qui bossaient de 5h du matin à 22h le soir et qui avaient du mal à vivre, enfin, quand même. Et que les avancées qui ont été obtenues, c'était par des luttes. Et du coup, c'est important aussi d'avoir des moments d'histoire qui montrent qu'on peut faire changer les choses.
Quand vous avez regardé un petit peu Elio Posso, de quelle manière on en était arrivé à voir ce mur de Berlin finalement s'effondrer, qu'est-ce que vous avez retenu de ce processus, de ce qui avait amené à l'effondrement de ce mur?
Le peu qui m'en reste, c'est une inadaptation économique et culturel du système soviétique, en fait. Oui, il y avait quand même deux grandes puissances idéologiques et systémiques à l'Est et à l'Ouest. Une qui était basée sur la coercition, hein, en URSS, avec une planification économique qui était parfois absurde, enfin, un enlisement militaire en Afghanistan, et puis avec oui, un système oppressif qui faisait que les gens, bon, d'un moment, leur disaient qu'il y avait autre chose ailleurs, ils avaient envie d'aller voir. Tandis que le principe du système occidental, c'est qu'on propose des choses aux gens, et puis on leur dit, c'est bon, vous êtes libres, faites ce que vous voulez, et bon, après, éventuellement, on s'arrange pour qu'ils aillent quand même dans un certain sens, mais on leur laisse au moins l'illusion du choix. L'illusion du choix, c'est important.
Je vais vous demander de lire un peu votre texte.
Oui.
Et du coup, de choisir un parcours.
Ah, c'est moi qui choisis ?
Ouais. Je vous donne l'illusion du choix.
L'histoire dont vous êtes le héros.
Comme tous les matins, vous contemplez la ville du haut de votre grue. Toujours le même fleuve en contrebas, fleuve de terre et de poussière aux rives de béton, où naviguent toutefois quelques taches de couleur. Autant de touristes visitant le No Man's Land Museum et qui s'ensablent ça et là de campements de réfugiés. En face de vous, une autre grue se dresse, et un homme vous fait signe de la main. Vous reconnaissez Franz, le grutier d'en face, et lui rendez son salut.
Félicitations.
Vous venez d'entrer dans l'histoire dont vous êtes le héros. Vous êtes Jonathan, et vous avez sur vous 25 Ostmark, une Schwarzkarte élimée, une photo de Maria, votre femme, ou de Mario, votre homme, un formulaire de demande d'intégration temporaire à la Fraternité Socialiste Universelle, au tranchant acéré.
Dégâts, 1D4-2.
Il se met à pleuvoir alors que sonne l'heure de la pause de midi. Vous soupirez. Vous avez faim. Si vous décidez de descendre déjeuner, allez en A1. Si vous préférez profiter de la pause pour prendre de l'avance sur votre plan hebdomadaire de productivité, allez en A2.
Allons en A2.
Vous êtes un homme branché. Vous n'avez pas besoin de manger. Votre motivation est votre boisson. La musique, votre nourriture. Grâce à un vieux lecteur MP3 de contrebande, ajoutez-le à votre inventaire. Vous redoublez d'ardeur en écoutant du Wagner. Vous ne voyez pas le temps passer. Allez en B3. B3. C'est la fin de la journée. Votre contremaître vous convoque sur la plateforme centrale en même temps que Grigory, un immigré ukrainien qui s'est blessé au poignet dans la matinée et n'a donc pas pu respecter son plan journalier de productivité. Le contremaître vous offre votre premier t-shirt à l'effigie de Honecker. Il est d'une belle nuance carmin. Vous en rêviez depuis votre arrivée ici. Ajoutez-le à votre inventaire. Puis le contremaître coche la deuxième des trois cases de la Schwarzkarte de l'ouvrier ukrainien en lui rappelant qu'il sera envoyé au No Man's Land lorsque la dernière aura été cochée. Il est temps pour vous de quitter, à regret, le chantier. Vous décidez d'aller fêter cette victoire avec des collègues autour de quelques verres de schnapps au terminal, le meilleur bistrot du cordon sanitaire oriental. Allez en D3. Il est temps pour vous de rentrer. Allez en C2.
C2.
Vous regagnez avec vos collègues les préfabriqués installés à côté du chantier, dans le cordon sanitaire en construction pour séparer le No Man's Land engorgé de la cité proprement dite. Sur la route, vous longez des affiches de propagande placardées le long de murs de béton sale ou de briques branlantes.
Vous êtes à la retraite ? Vous aimez le lien social et êtes ouvert sur le monde ? Devenez délateur dans votre immeuble et recevez des bons du programme Patriote pour les allocations.
Face à ces affiches de propagande, vous n'y faites même pas attention. Continuez votre route et rentrez chez vous. Allez en D2. Vous êtes révolté par leur contenu, n'y tenant plus, vous débarrassant de la gangue de cynisme et de résignation qui vous maintient en léthargie, vous arrachez les affiches avec colère. Allez en D1. D2.
D2. Une fois franchi la porte Walter Ulbricht, la première construction du cordon sanitaire, vous regagnez la piole du préfabriqué que vous partagez avec 6 autres ouvriers. Une fois connecté depuis l'unique EC2007B de la colocation à votre page folkwiedersehen.de, vous échangez brièvement avec Maria, votre femme, ou Mario, votre homme. Il est 22h. Que faire ? Vous êtes fatigué. Une dure journée de travail vous attend demain ? Allez en E1. Vous méritez d'aller boire un petit schnapps ? Allez en D3. Vous vous consacrez à votre second travail ? Que dis-je ? Votre véritable hobby ?
Vous épiez vos voisins depuis l'encadrement de vos fenêtres et le judas de votre porte? Allez en D4. E1.
Il y a quand même un espace inquiétant dans votre texte qui est ce no man's land, qui a l'air finalement beaucoup plus vaste que celui qui a existé en Allemagne, à Berlin notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
C'est un espace inquiétant, mais bon, qui est l'espace du clandestin, quoi, de l'immigré, de l'apatride. Et c'est né de cette volonté que j'ai eue, volonté, je ne sais pas à vrai dire, mais de ce récit qui est advenu en moi, du mur de Berlin comme un mur qui ne sert plus à empêcher les gens de sortir, empêcher les gens de rentrer. Ce qui est en général d'ailleurs la fonction d'un mur, que ce soit le mur d'Adrien ou le mur d'Israël dans les grands murs connus. Voilà, c'est plutôt empêcher les gens de rentrer chez soi. Donc dans mon uchronie, comme j'écrivais plutôt sur notre monde à nous, hein, du 21e siècle, c'est le mur Berlin donc serait devenu une espèce de paradis fiscal clairement accepté par les puissances occidentales avec des vagues oripeaux de dictatures socialisantes, surtout dictatures et plus du tout socialisantes, avec ce mur qui empêche les gens de rentrer parce qu'à l'ouest, c'est la crise, les gens veulent partir de l'ouest, mais en même temps, à l'ouest, on ne veut pas des immigrés de l'est. Du coup, bah, vu que personne ne veut de personne, il y a forcément un espace intermédiaire qui est le no man's land, et qui prend une actualité d'ailleurs un peu effrayante. Quand j'ai relu mon texte 2 ans plus tard, à la lumière des événements récents, j'ai pris un peu peur.
Finalement, Eliopoulos, vous proposez un texte où il y a un match nul entre l'Est et l'Ouest.
C'est vrai, avec une petite nuance quand même, je pense, c'est que j'ai quand même dépeint un monde où l'Est est phagocyté par l'Ouest. C'est une dictature qui est devenue un paradis fiscal pour les riches européens de l'Ouest, et du coup qui a été converti, sans le dire, à l'idéologie occidentale.
E1, 7h. Vous vous levez. Il est samedi. Mais vos émoluments d'ouvriers en bâtiment sont insuffisants pour faire face au coût de la vie berlinoise et envoyer, dans le même temps, de l'argent à votre famille. 8h, vous voilà au checkpoint Charlie Tour, où vous épinglez votre badge de guide italophone. 9h, les premiers touristes arrivent. Un quart de riches retraités du Piémont, venus s'encanailler dans l'antichambre de la dernière dictature socialiste restante en Europe. Vous prenez connaissance du contrat passé avec l'OPE, Office de Propagande Extérieure, puis conduisez vos visiteurs vers la première étape du Grand Tour, le No Man's Land. Vous passez devant les niches à chiens. En raison du grand âge des visiteurs et de la fragilité cardiaque recensée d'au moins 3 d'entre eux, les employés de l'OPE ont enlevé les molosses, autrement laissés et dressés pour faire peur aux touristes en quête de sensations fortes. 10h45. Les touristes rejoignent la boutique du Checkpoint Charlie, où leur est offerte la possibilité d'acheter de multiples souvenirs. Cartes postales du mur, livres de Marx, de Lénine, recueils de citations et de discours des anciens présidents de la RDA, sans oublier les innombrables t-shirts à l'effigie de Honecker le martyr, taille XL épuisée. Un Italien s'approche de vous alors que le groupe se disperse et vous demande
« Excusez-moi, monsieur, mais… »
L'homme est manifestement gêné.
« J'ai entendu dire par un ami qu'il y avait possibilité de déposer son argent ici, en échange d'une modeste contribution à la cause. »
Il y a toujours un ou deux membres des groupes de visite qui vous abordent avec semblable discours. Il y a également toujours une récompense pour ceux qui alimentent les caisses de la Volksbank. Vous satisfaites la demande du touriste. Allez en F2. Vous ne cherchez pas à entrer en RDA pour satisfaire la cupidité occidentale. Allez en F3. F3.
Vous avez fini votre journée de travail et pouvez désormais jouir d'un repos bien mérité. En attendant le lendemain et son lot de dalles de ciment déplacées depuis votre gré. Vous regagnez votre préfabriqué en longeant la porte Honecker sous les assauts d'une bise féroce et d'une allocution officielle qui jaillit des haut-parleurs publics avant de se perdre dans les rafales.
Siégez par force hostile. Le contexte éthique et international. Espions sont partout et nous sommes assiégés. Le mur nous défend vraiment la nasse sérieure et notre frère, Vladimir Poutine.
Vous soupirez, vous avez faim. Vous avez fini le jeu.
Comment vous avez imaginé ce personnage d'Erich Honecker dans votre histoire? Parce qu'apparemment, il lui est arrivé quelques bricoles en cours de route.
Oui, bah, j'ai beau avoir voulu un peu tricher avec la consigne et ne pas trop imaginer une réécriture de toute l'histoire de l'URSS qui a expliqué la chute du mur, il fallait quand même que je trouve quelque chose qui explique que le mur de Berlin ne soit pas tombé en novembre 89. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut quand même empêcher quelque chose en histoire, de manière un peu brutale? Bon, bah, en gros, je me suis appuyé sur l'idée de la stratégie du choc, quoi. Il y a un événement vraiment marquant qui fait qu'il y a une réaction brutale qui va faire qu'on va quand même ainsi empêcher ou moins retarder l'inéluctable de se produire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ce brave Honecker, il peut très bien s'être fait dessouder peu avant novembre 89. Du coup, bon, bah, hop, durcissement sécuritaire, cohésion de la nation, tout ça, tout ça. Du coup, Honecker le martyr, t-shirt, propagande, voilà, baptême de porte, et mur toujours solide.
Was war das für eine Lust am 13. August? Der Brand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an.
Et pour vous, la guerre froide, quels sont les éléments saillants? Comment vous la représentez comme ça immédiatement?
Il y a peut-être l'idée d'un monde plus simple, avec de côté bien net, des murs qu'on nomme par leur nom, comme peut-être aujourd'hui il y a des murs qu'on ne nomme pas et qui sont plus insidieux.
Page 28, 32, 43. Diane Ranville, 2 ans, le 9 novembre 1989.
Il y a aussi l'idée de grandes idéologies qui s'opposaient. Et finalement, quand on apprend ça à l'école, il y a les gentils, les méchants, mais... Qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque? Moi, j'avais des parents qui étaient hippies, qui avaient même des amis qui étaient communistes. Et finalement, on sait inconsciemment que c'était plus complexe que ce qu'on en raconte après coup. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu simple dans l'image qu'on s'en fait au premier abord. Quelque chose d'intéressant.
Drama. Organo oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La Havane, le 22 mai 2004. Cuba, au Venezuela, vive les républiques. Aujourd'hui est un jour spécial. Il y a 10 ans, la glorieuse révolution littorale de mai 1994, initiée à Maracaibo par de dignes représentants du peuple vénézuélien, signait le début de l'incorporation de la République bolivarienne du Venezuela au sein de la République de Cuba. Ce fut ce moment fondamental qui transforma les deux pays en ce que nous nommons aujourd'hui avec fierté les Républiques Unies d'Amérique du Sud. Une alliance des peuples qui a depuis été rejointe avec enthousiasme par la Colombie et le Nicaragua. À l'occasion de ce 10e anniversaire, le peuple de Caracas est invité à descendre dans les rues et les places publiques pour fêter la venue de notre leader à tous, Fidel Castro. Pendant sa visite, Fidel s'entretiendra avec son fidèle disciple, Hugo Chavez, commandant délégué de la République vénézuélienne.
Pour moi, l'enjeu, c'était de montrer qu'une même réalité est décrite de manière très différente selon le pays. Donc, en l'occurrence, une du monde pour la France, le Herald Tribune, il me semble, pour les États-Unis, et le journal officiel cubain. Ça permettait de donner des éclairages en faisceau pour donner la complexité du réel. Pourquoi des facsimilés comme ça, très immersifs, puisque c'est vraiment des contrefaçons, quoi, de une de journaux. Je pense que ça vient du fait que j'ai travaillé aussi dans le monde du fanzine, où à travers l'aspect do it yourself du fanzine, on faisait déjà des contrefaçons, des tracts, des faux journaux et des choses qui permettent d'immerger le lecteur dans la fiction en lui montrant des éléments qui vont avoir l'aspect du réel.
Et pour que cette fiction paraisse crédible, comment vous avez travaillé?
J'ai été lire ces journaux que je voulais pasticher, notamment les journaux cubains. C'est assez enrichissant, on va dire, de voir quelle est la rhétorique, en fait, de ces journaux, la grandiloquence un petit peu du... des phrases un peu type, voilà. Donc j'ai été reprendre des morceaux de discours de Fidel Castro pour reprendre la phraséologie, que, sachant que chacun des articles est écrit en langue originale, je les ai moi-même traduits en faisant vérifier ensuite pour les choses dont je n'étais pas sûre, mais effectivement je me suis documentée et c'était assez intéressant.
Patron, on a reçu le dernier manuscrit de Hans.
Fantastique! Tu l'as lu?
Et j'ai commencé, et c'est comment dire... ça passera pas la censure.
Comment ça?
Vous vous rappelez les émeutes et les manifestations de l'automne 89?
Bien sûr que je m'en souviens, j'y ai pris part. Tout le monde fait des erreurs. On croyait que le mur allait... Enfin...
Oui.
Mais non.
Non.
Enfin, quel est le problème avec le manuscrit?
Hans l'a fait tomber.
Quoi donc?
Le mur, en 1989.
Comment ça, Hans a fait tomber le mur?
Dans son histoire, je veux dire.
Quoi? C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il lui a pris?
Je sais pas, patron, mais ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire du tout.
Mais on ne peut rien refuser à Hans. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris?
Eh bien, voilà la copie.
Merci.
J'ai surligné en rouge les passages.
Oui, je vois.
Ici, par exemple, le mur était enfin tombé. Dans quelques semaines, l'Europe de l'Est serait en feu. Des révolutions simultanées en Roumanie, Tchéquie, dans les petits pays baltes et même en Russie viendraient déposer les dirigeants communistes. Il n'y avait plus de frontières, ni pour les corps, ni pour les esprits. Mais V ne le savait pas encore. Et il ignorait encore plus le rôle qu'il jouerait dans ces événements.
C'est n'importe quoi.
C'est ce que je pense. La Honecker n'aurait jamais laissé le mur tomber.
Ah, la brave Margot. Une grande femme. Plus grande que son mari, en fin de compte.
Et qui l'aurait dit quand elle a repris le siège du vieux?
En tout cas, pas Ceausescu. Enfin, je crois qu'il faut quand même couper quelques petites choses.
Mais on ne sera jamais d'accord.
Tu as raison. Écrivons plutôt cela. Comme par magie, tout le bloc soviétique allait vite suivre le mur de Berlin dans sa chute, mais V ne le savait pas encore. Dans les semaines et les mois à venir, les dirigeants roumains, tchèques et bien sûr russes n'allaient pas tenir. Les États baltes portèrent le coup de grâce à l'URSS en proclamant leur indépendance.
Ça, c'est drôle, les États baltes. Ridicule.
C'est l'idée. On polie l'histoire à l'insu de Hans, en gardant son style magique que nous aimons tant. Et voilà notre ouvrage bientôt publié. Quels sont les autres passages?
Le diplomate français que rencontra V, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis, l'assura que leur pays appuierait la réunification de toutes leurs forces pour le triomphe de la démocratie. V les crut sur parole et l'avenir allait lui montrer qu'il fit bien.
La diplomatie, sujet sensible. On ne connaît pas bien.
Que peut-on écrire?
Qu'après la chute du mur, la France a exprimé son attachement à la RDA et a affirmé vouloir signer des accords de la coopération à long terme avec elle. Et cela alors que les Américains appuient la réunification de toutes leurs forces au nom du plan Marshall et du libéralisme économique. Qu'y a-t-il d'autre?
Là, Hans s'est laissé déborder par son lyrisme. Il écrit « V se rappelait des journées qui avaient suivi la chute ». On disait que Rostropovitch, l'immense violoncelliste toujours engagé pour la paix et la liberté, donnait concert au pied des débris du mur de manière tout à fait improvisée, et que les gens qui l'écoutaient étaient en larmes.
Rostropovitch, rien que ça. Pourquoi pas Willy Brandt tant qu'on y est? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Rostropovitch est sur liste noire. On ne peut pratiquement trouver aucune de ses œuvres dans tout l'Est aujourd'hui. Peut-on l'effacer?
C'est aussi ce qui est problématique. Hans est un grand fan.
Ce sera donc impossible. Il faut minorer la portée de tout ceci.
Comment cela?
J'ai une idée. Pour commencer, trouve-moi un artiste pop américain.
Disponible?
Comment ça, disponible? Donne-moi simplement un nom.
Michael Jackson?
Trop de symboles. Je ne veux rien d'universel. Donne-moi un avec un nom allemand, comme Kurt, quelque chose là. Le junkie, avec son groupe de débiles.
Nirvana?
C'est ça. Et un autre. Un acteur cette fois-ci. Un bon symbole de l'impérialisme culturel occidental. Du nivellement par le bas.
Un acteur de série télé?
Oui, très bien. Une série à succès.
Toujours avec un nom allemand?
Mais il faut que ça reste cohérent.
Arnold Schwarzenegger?
Un Autrichien. 1989, ce n'est pas le bon moment pour jouer l'Anschluss, même si l'Autriche est passée de notre côté depuis.
David Hasselhoff?
David Hasselhoff est allemand?
Son nom l'est, mais lui, aucune idée. Je ne sais pas non plus s'il sait chanter.
Peu importe. Si Hans l'écrivait, tu serais une ballerine. David Hasselhoff sait chanter.
On garde Rostropovitch?
On le garde. Maintenant qu'il est
Asselofiser, on ne risque plus rien. C'est ça l'effet Asseloff. Tout le monde ne peut pas être de la fête sans la gâcher un petit peu. Qu'est-ce que Hans écrit d'autre ?
Là, c'est encore chaud. L'Allemagne était réunifiée, on prendrait le meilleur de l'Est et de l'Ouest, et la nouvelle Allemagne naîtrait.
Réécrit après, réunifié, tout ce qui restait de la RDA, ce serait une poignée de figurines Hampelmann vendues dans les magasins de souvenirs et des faux GI posant à Checkpoint Charlie, attendant de se faire photographier avec des touristes pour quelques écus.
Quelques écus ?
Ça, c'est de moi. Une monnaie unique en Europe. L'effet Asseloff, rappelle-toi. L'effet Asseloff ! Soumets les modifications à Hans. Dis-lui que son texte manque un peu de subtilité.
Page 71. Morgan Charvet. 2 ans, le 9 novembre 1989.
C'est-à-dire que David Asseloff avait éminemment le droit de participer à cette immense célébration. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est bien dommage qu'on se rappelle de lui, participant à ce moment de l'histoire. Alors, de là à dire qu'il l'a gâché, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, il avait le droit d'en être.
Finalement, votre texte, c'est une manière, Morgan Charvet, de raconter la véritable histoire dans ce recueil d'histoires parallèles.
Exactement, c'est là où elle a la mise en abîme. Dans la mise en abîme, on passe une fois par l'Uchronie, deux fois par l'Uchronie, pour arriver en fait à notre propre histoire. C'était des intuitions sur le fait que peut-être que l'histoire du mur de Berlin n'était pas aussi belle qu'on nous la racontait. Alors, évidemment, je me suis rappelé David Asseloff en premier, mais ensuite, l'idée que si le mur de Berlin était tombé en 89, l'Allemagne ne s'était pas réunifiée tout de suite. Alors, j'ai d'abord cherché à comprendre pourquoi. C'est là où j'ai appris que Mitterrand avait signé des accords de coopération avec la RDA après la chute du mur, par exemple. Ou d'autres petits détails comme ça qui me sont revenus, et après des recherches assez rapides, en fait, j'ai pu les intégrer dans mon texte.
Comment vous avez trouvé cette idée de texte dans le cadre de cette anthologie ?
C'est venu assez rapidement, puisqu'en fait, l'Uchronie porte beaucoup sur les événements, disons, mineurs, et cherche à les changer pour essayer d'explorer les ramifications de l'histoire telle qu'elle aurait pu arriver. Et dans l'histoire du mur de Berlin, plutôt de sa chute, on a beaucoup de ces petits détails. On a ces photos où on voit un visage. On retient 1989, c'est une date. On retient des noms, des personnages, des visages. Et donc c'était assez facile, en fait, de contrefaire une histoire qui était déjà une histoire, disons, une histoire 1515 Marignan, une histoire faite de micro-événements qu'on relie pour en faire une chaîne de cause à effet. Alors, David Asseloff était justement un de ces micro-détails sans importance de cette histoire, et partant de là, il était presque évident d'exploiter un détail comme celui-ci. Voilà, donc c'est très très kitsch et évidemment très très de très mauvais goût. Mais voilà, David Asseloff avait le droit d'être là et de célébrer à sa manière le grand événement.
Berlin, sous les yeux du monde entier, vient de vivre ses 3 glorieuses. Le mur est tombé sous les coups de boutoir du peuple est-allemand. Contre toute attente, le président Egon Krenz lui a prêté main forte en faisant percer une multitude de nouveaux points de passage entre l'Est et l'Ouest.
Nous sommes assis à Califourchon sur le mur qui coupe en deux Berlin, et c'est terriblement émouvant parce que 3 mètres en dessous de nous, en fait, il y a un champ de mines, il y a encore des soldats, il y a des éclairages et des soldats en dessous qui nous regardent et qui nous demandent de partir, je crois, d'ailleurs.
Nous prions les personnes qui se trouvent au-dessus du mur de descendre du mur, car sans votre descente, les ouvriers de l'autre côté ne finiront pas le travail. Nous remercions de votre coopération et vous prions d'être très disciplinés. Merci.
Et puis je pense que le principe de l'imaginaire, c'est que ça nous parle, c'est ancré en nous. Et donc forcément, quand on nous dit écrivez là-dessus, même si c'est avec une proposition de si jamais, on ne peut pas complètement s'en abstraire et ça aurait été vraiment très contre-intuitif finalement. On a naturellement tendance à se raccrocher aux représentations qui sont en nous et autour de nous, et à essayer de jouer avec. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'histoire dont vous êtes le héros. Prendre les codes que j'avais, qui appartenaient déjà à la fiction d'ailleurs, et puis les tordre et jouer avec pour proposer quelque chose d'encore plus éloigné de la réalité. Et oui, être désenchanté, parce que je pense pas que le système capitaliste soit, soit un bon modèle. Hein. Très clairement, on le voit de plus en plus. C'est un peu dur d'y adhérer benoîtement. À partir de là, si on ne peut adhérer ni à l'un ni à l'autre, faut critiquer et l'un et l'autre. Idéalement, proposer autre chose. Et c'est vrai que c'est mon regret quand j'ai relu mon histoire, c'est que c'est quand même très pessimiste. Et je me dis qu'il serait temps d'écrire quelque chose de plus optimiste.
Merci à Gabriel Ferraud, Elio Posso, Gilles Luneau, Diane Ranville, Morgane Charvet et Guillaume Muller-Labbé. Archives, Aurélie Marsay. Lecture, Mélodie Auru, Igor Menjinski. Mixage, Éric Boisset. Le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé, et tous ceux qui suivirent, Anaïs Kian, Anne Fleury.
Demain, nous poursuivons notre semaine consacrée à l'histoire alternative, après vous avoir parlé de l'histoire des possibles lundi, de ce jour où le mur de Berlin n'est pas tombé aujourd'hui, avec le documentaire que vous pouvez réécouter évidemment sur le site de France Culture. Demain, nous évoquerons l'Uchronie, et en particulier l'œuvre de Philippe Kadic, le maître du Haut-Château, qui envisage une autre fin pour la Seconde Guerre mondiale que celle que nous avons connue. Et Nicolas Patin, spécialiste de l'Allemagne au XXe siècle, et Michael Luquen, spécialiste du Japon, seront avec nous pour le commenter, cet ouvrage.